Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une enquête sur l'éventuel financement de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy par l'argent de Kadhafi. Élodie Guéguin et Benoît Colombat ont eu accès à des écoutes téléphoniques édifiantes que nous avons reconstituées. Nous allons donc voir quelles sont les pistes suivies par les juges, comment on s'inquiète dans l'entourage de Nicolas Sarkozy, et je précise que rien de ce que vous allez entendre n'a été inventé.
France Inter, secret d'info, Jacques Monin.
C'est une infamie quand je pense qu'il y a des journalistes qui osent donner du crédit au fils Kadhafi, au service secret de M. Kadhafi.
Là, c'est une
dictateur,
lettre officielle.
Dictateur, mais c'est un, madame, vous croyez, 50 millions d'euros, pourquoi pas 100 pour une campagne qui en vaut 20? Alors, il faut se mettre d'accord, ma campagne a été financée par les sous-marins pakistanais, par M. Kadhafi.
Voilà, c'était le 29 avril 2012 sur Canal+. Entre les deux tours de la dernière présidentielle, le site Mediapart vient de faire état d'une note selon laquelle Nicolas Sarkozy aurait reçu 50 millions d'euros du colonel Kadhafi pour financer sa campagne de 2007. Bonjour Benoît Colombat.
Bonjour Jacques.
Alors on l'entend, hein, Nicolas Sarkozy lui dément avec vigueur. Et pourtant au même moment, en coulisses, sa garde rapprochée, elle, s'agite beaucoup et elle s'active autour d'un personnage très important dans cette affaire. On va le voir, c'est un Libyen qui s'appelle Béchir Saleh.
Oui, c'est l'ancien directeur de cabinet de Kadhafi. C'est un homme important, hein, puissant. Il fallait forcément passer par lui pour accéder au guide libyen. C'est aussi un homme riche. Il est à la tête d'un fonds de plusieurs milliards qui était en fait la cagnotte de Kadhafi.
Oui, c'est un bras droit donc de Kadhafi. Et lorsque le régime tombe en 2011, qu'est-ce qu'il fait ce Béchir Saleh ?
Eh bien, il se réfugie à Paris avec, dit-on, une partie de l'argent du dictateur. Et là, dans un premier temps, il vit tranquillement sous la protection des officiels français.
Pourquoi vous dites dans un premier temps ?
Eh bien, parce qu'en 2012, les choses se gâtent. D'abord, le nouveau pouvoir à Tripoli réclame son arrestation. Un mandat d'arrêt est émis contre lui. Et ensuite, on se dit dans l'entourage de Nicolas Sarkozy que ce détenteur des secrets de Kadhafi risque de ne plus être protégé si François Hollande remporte la présidentielle.
Et donc ?
Eh bien, on lui fait comprendre qu'il vaut mieux qu'il quitte la France. Et celui qui est chargé de cette mission, c'est Alexandre Djouri, un homme de l'ombre, un proche de Nicolas Sarkozy. Djouri va donc rencontrer Béchir Saleh dans des conditions assez étranges que nous raconte le journaliste Michel Desprat, qui a été le premier à révéler cet épisode.
On est où exactement là ?
On est juste au pied du pilier est de la Tour Eiffel, sur la chaussée, en face du jardin du Champ de Mars.
Et qu'est-ce qui se passe ici le 3 mai 2012 alors ?
Le 3 mai 2012, vers 18h, il y a Béchir Saleh, donc, dont on a appris qu'il était recherché par Interpol, qui vient ici à un rendez-vous qui lui a été fixé quelques minutes avant au téléphone.
Un rendez-vous secret.
Il débarque et ici il trouve un homme qui a un costume bleu, qui n'a pas de cravate, une chemise de long col et qui est à l'ombre, à côté d'un marchand de glace qui était à peu près ici.
Cet homme c'est qui ?
C'est Alexandre Djouri. En fait, Alexandre Djouri explique à Béchir Saleh que ses amis au pouvoir ne peuvent plus le soutenir, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy.
Donc il faut qu'il parte.
Qu'ils ne pourront plus le protéger très longtemps.
Oui, alors on a donc Béchir Saleh, Djouri, Alexandre Djouri, au milieu de la foule. Et ça n'est pas tout, Benoît, parce que non loin de là, il y a encore un troisième personnage.
Oui, un homme qui veut s'assurer que Béchir Saleh va bien quitter la France. Et ce personnage, ce n'est pas n'importe qui, raconte encore Michel Desprat.
Au bout d'un moment, Béchir Saleh et Alexandre Djouri voient arriver un homme qui a un costume gris, qui est au visage un peu rond, qui reste à 20-30 mètres à distance d'eux. Il ne veut pas être vu en présence de Béchir Saleh. C'est Bernard Squarcini, qui est le directeur de la DCRI. C'est
le patron du renseignement.
Le patron du renseignement, un grand policier, et qui vient donc à la rencontre d'un homme officiellement recherché par la police. Et Alexandre Djouri fait la navette entre eux, Béchir Saleh et Bernard Squarcini. Un grand flic qui exfiltre en cachette un homme recherché par son administration.
Alors là, c'est vraiment incroyable, hein, cette scène. On a le patron des services secrets français qui aurait lui-même supervisé la fuite de l'argentier de Kadhafi. Mais il le fait de son propre chef ou il est en service commandé ?
Bon, difficile de penser qu'il n'en réfère pas à son patron. À l'époque, le ministre de l'Intérieur Claude Guéant, qui est par ailleurs l'homme de confiance de Nicolas Sarkozy. En tout cas, Au moment où la rumeur d'une fuite de Béchir Salé commence à circuler, Claude Guéant affirme, lui, au micro de RFI, ne rien savoir de cette histoire.
Il est arrivé en France, je ne sais pas par quel moyen, mais il n'a pas été exfiltré par les services français. Il a une autorisation de séjour provisoire en France, puisque son épouse est française. Et par ailleurs, comme il est l'objet d'un mandat de recherche, eh bien, dès qu'il sera interpellé, dès qu'il sera découvert, il sera interpellé.
Mais il ne doit pas être très bien retrouvé, puisque hier, il était dans une brasserie parisienne. Il a répondu à des questions de journalistes de Paris Match.
Non, je ne suis pas au courant.
Ah oui, le ministre de l'Intérieur n'est donc pas au courant de ce que fait son propre patron des services secrets. Ça paraît quand même un peu étonnant.
Mais alors ça paraît d'autant plus improbable que les enquêteurs ont découvert que ce soir-là, sous la tour Eiffel, Bernard Squarcini a bien téléphoné justement au cabinet de Claude Guéant.
Oui, donc il en aurait bien référé à son ministre. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe?
Eh bien, Alexandre Djori accompagne lui-même Béchir Salé, l'argentier de Kadhafi, à l'aéroport du Bourget pour le mettre dans un jet privé direction l'Afrique.
Donc Béchir Salé part avec ses secrets, les juges ne pourront pas l'entendre. Cela dit, ça ne les empêche pas, ces juges, de chercher à savoir si l'argent de Kadhafi n'a pas arrosé des politiques français. Et dans leur collimateur, eh bien on retrouve Claude Guéant.
Oui, les juges s'intéressent précisément à deux tableaux qu'aurait vendu Claude Guéant en 2008. Une transaction qui lui a permis d'empocher 500 000 euros.
Et où est le problème?
Eh bien, le problème, c'est que les enquêteurs doutent que Claude Guéant ait jamais accroché ses tableaux au mur, hein, comme il le prétend. Pour en avoir le cœur net, ils interrogent donc sa femme de ménage. Elle se rappelle bien de tableaux, mais uniquement des toiles peintes par l'épouse de Claude Guéant, comme elle le dit aux enquêteurs.
Je n'ai pas le souvenir de peinture, hormis celle de Madame Guéant. Madame Guéant peignait des tableaux. Elle faisait des petites peintures, par exemple des fleurs, des éléphants. Elle peignait aussi des tasses.
Oui, donc a priori, pas vraiment des tableaux à 500 000 euros. Hein. Mais quel rapport, Benoît, entre les tableaux de Claude Guéant et notre affaire libyenne?
Eh bien, le rapport, c'est que ces tableaux auraient été achetés par un avocat malaisien soupçonné d'être en fait l'homme de paille d'un richissime saoudien. Et derrière ce riche saoudien, que se cache-t-il? Eh bien, un fonds d'investissement libyen géré par Béchir Salé.
Ah oui.
Et l'argentier de Kadhafi qu'il était si urgent de faire partir.
Ouais, donc les juges se demandent si l'argent de Béchir Salé, donc de Kadhafi, n'est pas arrivé sur le compte de Claude Guéant en passant par des intermédiaires.
C'est ça, et c'est la raison pour laquelle le juge parisien Serge Tourner a mis en examen Claude Guéant pour blanchiment de fraude fiscale en bande organisée.
Donc il est mis en examen. Maintenant, comment est-ce qu'on en est venu à soupçonner Claude Guéant?
Eh bien, notamment grâce à des écoutes téléphonique que nous avons pu consulter et que nous avons fait lire par des journalistes. On y entend notamment le prétendu acheteur des tableaux de Claude Guéant, l'avocat malaisien. Il est au téléphone avec l'un de ses amis, un homme très bien informé, et il s'inquiète de l'évolution de l'enquête des policiers français.
J'ai reçu un autre mail très agressif il y a une heure. Ils veulent me parler parce qu'ils ont de nouvelles preuves.
Tu n'as pas à dire qui est l'acheteur. C'est pas criminel d'acheter un tableau, c'est pas criminel. C'est pas une transaction cachée. Ils cherchent un transfert d'argent en provenance de Libye.
Ah ah. Donc, ils ont trouvé le lien avec Kadhafi?
Oui, ils cherchent un lien avec Kadhafi, mais ils ne cherchent pas au bon endroit.
J'espère que Sarkozy va revenir au pouvoir et qu'il remettra tous ces gens à leur place.
Absolument, absolument, il le fera.
Ouais, ils ne cherchent pas au bon endroit, hein, c'est ce qu'on a entendu. Ça donne quand même l'impression, Benoît, que la police française est sur une piste intéressante.
Oui, d'autant plus que l'homme qui tient ses propos, hein, cet avocat si bien informé, n'est pas sans lien avec la Libye. En fait, c'est lui qui a financé le départ précipité en jet de Béchir Salé entre les deux tours de la présidentielle.
Ouais, donc a priori, il sait de quoi il parle. Bon, en tout cas, ce que montre cette écoute, c'est qu'on s'inquiète. Et d'ailleurs, peut-être pas seulement à cause de l'enquête en cours en France, mais aussi parce que cette affaire, Benoît, bah elle est dangereuse, elle est jalonnée de morts mystérieuses.
Il y en effet pas mal de cadavres dans ce dossier, et notamment celui d'un Libyen très haut placé, Mohamed Al-Bichari.
C'est qui ce Mohamed Al-Bichari?
C'est un homme qui affirmait que Kadhafi enregistrait toutes les conversations lorsqu'il recevait des visiteurs étrangers. Dans certains de ces enregistrements, il y aurait même les preuves de remise d'argent à des Français. Mohamed Al-Bichari jurait détenir ces enregistrements explosifs.
Et qu'est-ce qui lui est arrivé à ce Libyen?
Il est mort, officiellement d'une crise de diabète, mais la soudaineté de sa disparition intrigue ses proches. Il se demande s'il n'y a pas un lien entre sa mort et ces fameux enregistrements.
Mais il en avait parlé à quelqu'un de ces enregistrements?
Oui, notamment à un Français, un ancien député européen, Michel Scarbanchi, qui l'a raconté aux enquêteurs.
Je dois vous parler de faits qui m'ont été évoqués par Mohamed Al-Bichari. Il m'a dit que Kadhafi enregistrait tout le monde, tous les gens qu'il recevait. Il y a 70 cartons de cassettes qui sont conservés en Libye. Il savait que ces enregistrements pouvaient devenir un moyen de pression. C'était une sorte de protection pour lui. Al-Bichari m'a parlé de ces enregistrements en mars 2012. Il m'a appelé pour me dire qu'une de ses équipes avait trouvé dans une villa près de Tripoli les cartons avec tous les enregistrements.
Oui, donc ce Libyen Al-Bichari possédait des cassettes secrètes de Kadhafi, des enregistrements dans lesquels des Français, on ne sait pas lesquels, mais des Français seraient mis en cause. Et il le dit donc à ce député européen.
Exactement, et cet ancien député Michel Scaramucci veut alors savoir si ces enregistrements ne sont pas des montages. Il demande donc un échantillon de ces enregistrements pour le faire expertiser. Et qui appelle-t-il pour faire ce travail ? Le patron du renseignement français, Bernard Squarcini, qui est en fait, tenez-vous bien, son petit cousin.
Attendez, vous êtes en train de nous dire qu'un homme qui disait détenir des enregistrements compromettants pour le sommet de l'État français est mort juste après s'être confié au cousin de Bernard Squarcini ?
Absolument, parce que pour l'ex-député européen Michel Scaramucci, la priorité, c'est de savoir si des Français apparaissent bien sur ces enregistrements compromettants, comme il explique aux enquêteurs.
Je voulais faire authentifier la voix, c'était une voix française, pour savoir si la bande était bidon ou pas. J'ai eu un rendez-vous avec un gars des services de renseignement, Squarcini était présent, l'échantillon a été remis au gars des services. J'ignore ce que sont devenues ces bandes. J'ai demandé plus tard à Squarcini quelle voix française était authentifiée. Il m'a répondu qu'il ne savait pas, mais je pense qu'il n'a pas voulu me le dire.
Donc on ne saura pas ce qu'il y avait sur ces bandes et Al-Bichari, lui, meurt peu après. Et ce qui est encore plus intriguant, Benoît, c'est qu'au même moment, on retrouve le cadavre d'un autre témoin clé de cette affaire.
Oui, le 29 avril 2012, au moment où le scandale libyen s'invite dans la présidentielle française, on repêche dans le Danube le corps de Choukri Ghanem, l'ancien ministre du pétrole de Kadhafi qui s'est lui réfugié en Autriche. Lui aussi en savait long sur les magouilles financières du régime. Et là encore, ses proches ne croient pas à une mort accidentelle.
Oui, ils le croient d'autant moins qu'on retrouve son carnet et que ce carnet est lui aussi potentiellement explosif.
En tout cas, à la date du 29 avril 2007, il y est écrit noir sur blanc que Nicolas Sarkozy aurait reçu de l'argent libyen pour un montant de 4,5 millions d'euros. Et à côté de cette somme, Choukri Ghanem a écrit le commentaire suivant.
J'ignore s'ils croient vraiment qu'ils peuvent changer la politique de la France moyennant cet argent. D'abord, les montants qu'ils engagent sont dérisoires à l'échelle de l'Europe. Et puis, d'autres pays payent bien plus.
Oui, sous-entendu, payent bien plus que la Libye. Bon, on n'en saura pas plus puisque Choukri Ghanem meurt à son tour. Mais toutes ces morts suspectes, Benoît, elles pèsent sur l'enquête.
Mais c'est pour ça d'ailleurs que certains hommes clés du régime libyen qui ont finalement accepté de témoigner devant le juge l'ont fait sous X, c'est-à-dire de manière anonyme. La loi le permet sous certaines conditions.
Oui, et alors ce qu'on observe, c'est que plus ils témoignent sous X, ces gens, et plus on semble s'inquiéter dans l'entourage de Nicolas Sarkozy. En tout cas, on cherche à s'informer sur l'enquête en cours.
On le voit très bien. En juin 2013, à travers cette écoute, Michel Gaudin, qui est alors directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy, est inquiet car un Libyen, l'ancien interprète de Kadhafi, vient de se confier à des journalistes. Michel Gaudin est donc inquiet. Il se demande si ce témoin ne s'est pas aussi confié au service secret français. Et pour le vérifier, il appelle donc Patrick Calvar, le nouveau patron du renseignement intérieur.
Oui, bonjour Monsieur Calvar. Je vous ai rappelé dans l'après-midi à l'initiative du président, enfin l'ancien président Monsieur Sarkozy, parce qu'il est assez embêté. Il a appris que vos services auraient reçu le garçon là, qui était donc l'interprète de Kadhafi et qui hier a déclaré que Kadhafi avait donné de l'argent à Monsieur Sarkozy. Enfin, je ne sais pas si vous...
On n'a reçu personne, nous.
Non, mais parce qu'aussitôt, le président a pensé que tout ça pouvait correspondre à un montage, pour qu'il raconte n'importe quoi, pour avoir des papiers, quoi, voilà. Alors, je ne pense pas que ce soit ça, mais...
En tout cas, monsieur le préfet, ce que je peux vous dire, c'est que depuis que j'ai pris mes fonctions, aucune action n'a été entreprise visant à prendre des contacts avec qui que ce soit sur ce domaine-là. Je vais faire une vérification, parce qu'il faut toujours effectivement regarder... Mais les instructions sont très claires, on n'a pas reçu de Libyens venant faire des déclarations relatives à des faits de cette nature.
Le patron du renseignement français qui rassure donc le directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy. Cela dit, 3 mois plus tard, l'interprète de Kadhafi sera tout de même auditionné par les juges et il confirme l'hypothèse d'un financement politique.
Secret d'info sur France Inter.
Alors, on a vu comment l'entourage de Nicolas Sarkozy a organisé la fuite du grand argentier de Kadhafi, comment des témoins clés ont disparu dans des conditions suspectes. On a vu comment les juges tentent de remonter le fil de l'argent libyen et comment leurs investigations inquiètent certains protagonistes de cette histoire. Alors, on va se pencher maintenant sur un des personnages clés de cette affaire libyenne. C'est un homme qu'on a évoqué au tout début, c'est-à-dire Alexandre Djouri.
Oui, souvenez-vous, on l'a quitté au moment où il mettait Béchir Salé dans un jet pour l'Afrique. Depuis, Alexandre Djouri s'est lui aussi exilé. Il réside surtout à l'étranger et fait tout pour éviter la police française. Et visiblement, dans l'entourage de Nicolas Sarkozy, on n'a pas trop envie de le voir revenir. En tout cas, c'est ce qu'on comprend à travers cette conversation entre Alexandre Djouri et son ami, le député Les Républicains et ancien magistrat Alain Marceau.
Personne ne veut que tu rentres en France, ils ont trop peur que tu parles.
Oh non, mais attends!
Non mais attends, on va demander à Sarkozy s'il est pressé que tu rentres.
Mais attends Nicolas, il en a rien à foutre!
Il en a rien à foutre, enfin il préfère que tu sois pas en France, que t'ailles pas voir le juge.
Oui, ce qu'on entend donc, c'est que Djouri sait des choses qui pourraient sans doute gêner la droite et il en sait d'autant plus qu'il semble être un intime de Nicolas Sarkozy.
Oui, c'est ce que révèlent également les écoutes judiciaires. Il y a une grande complicité entre les deux hommes, comme le 2 janvier 2015, lorsque Djouri appelle l'ancien président.
Bonne année Nicolas.
Ah bah Alexandre, je voulais te souhaiter une bonne année à toi.
Bah tu verras, tout se passera bien et le courage guidera nos raisons, tu verras.
Tu es où, là ?
Là, je suis à Courchevel.
Ah, eh bien écoute, je t'embrasse, mon Alexandre.
Oui, on sent bien qu'il existe une véritable proximité hein, entre les deux hommes. Et pourtant, si on regarde le parcours d'Alexandre Djouri, a priori, rien ne le prédestinait à faire partie du premier cercle du pouvoir.
C'est vrai, Alexandre Djouri est né il y a 58 ans, en Seine-Saint-Denis, issu d'une famille d'origine algérienne. Son vrai prénom, c'est Ahmed. Il a grandi à Sarcelles. Il a un passé de petit caïd. Il a été entendu dans des affaires de règlement de compte, entre bandes de voyous. Il a lui-même été victime d'une fusillade en plein Paris. Dès le début des années 80, c'est un habitué des commissariats, comme en témoigne cet extrait d'un rapport de police.
Ahmed Djouri était interpellé le 25 septembre 1981. La perquisition effectuée à son domicile a mené à la découverte de 2 revolvers chargés, de menottes et d'une cagoule. Ahmed Djouri était de nouveau interpellé le 27 octobre pour son implication dans 5 agressions à main armée commises dans des bijouteries de la région parisienne.
Bon, et comment est-ce qu'on passe de petit caïd de banlieue à intime du président de la République ?
Ça s'est fait par étapes en fait. Hein. Alexandre Djouri commence d'abord par fréquenter la Jet Set, dans les boîtes de nuit parisiennes. Il se lie d'amitié avec le fils d'Alain Delon, ils font des affaires ensemble. Mais ce qui le lance vraiment, ce sont ensuite les réseaux africains de Charles Pasqua, la France-Afrique des années Chirac, les figures de l'affaire Elf. Dernière étape, Djouri se rapproche de grands patrons français comme Serge Dassault ou Henri Poglio. Il intègre alors le cercle très fermé des intermédiaires, ces hommes de l'ombre qu'on retrouve en marge de gros contrats.
Oui, donc à l'époque, Djouri est au service des réseaux Pasqua-Chirac. Maintenant, comment est-ce qu'il arrive alors dans le camp Sarkozy ? Parce qu'on se souvient qu'il y avait une guerre féroce entre Chiraciens et Sarkozistes.
Tout simplement parce que Djouri ne peut pas faire autrement. Hein. C'est ce que raconte le journaliste Pierre Péan qui a longuement enquêté sur le sujet dans son livre « La République des mallettes ».
Début 2006, il sent qu'il n'a plus le choix s'il veut exister, s'il veut continuer à être un des rois de la zone grise, facilitateur du système. Il peut plus faciliter le système s'il n'est pas dans le bon camp. Et pourtant, Dieu sait, s'il s'est battu contre le système Sarkozy, il va faire tout simplement un retournement d'alliance. Sarkozy, devant témoin, il va dire s'il n'était pas venu à Canossa, autrement dit, s'il n'était pas venu dans mon camp, il aurait eu une balle entre les deux yeux.
Ouais, Djouri passe donc dans le camp sarkozyste pour rester en cours et pour sauver sa peau, en tout cas politiquement. Mais il joue en fait sur les deux tableaux. Il continue aussi de fréquenter un des tout proches de Jacques Chirac et en l'occurrence Dominique de Villepin.
Et Djouri va même servir d'entremetteur entre les ex-ennemis Sarkozy et Villepin. Et écoutez comment dans cette conversation, Alexandre Djouri essaie de convaincre Nicolas Sarkozy que Dominique de Villepin dit à nouveau le plus grand bien de lui.
Oui, allô, c'est Alexandre. Nicolas, t'es occupé ?
Alexandre, comment vas-tu ?
Ça va, et toi ?
Très bien.
Il m'a dit, Dominique, que t'étais excellent. Hein. Il m'a fait que des compliments sur toi.
T'es gentil.
Il m'a dit, il est d'une intelligence quand même. Il compartimente, c'est une éponge. Il me dit, là, de plus en plus, j'y crois. Il est bon, là, je te jure. Il m'a dit ça ce matin.
Ah oui, t'es gentil.
Il m'a dit, il est vraiment bien, il s'est transformé, il se projette bien intellectuellement. Et tu sens maintenant cette lumière qui l'amène à la victoire. Il m'a dit ça tout à l'heure, il m'a dit, là, je le sens bien maintenant, notre Nicolas, je le sens super bien.
Ah bah écoute, t'es adorable.
Ce qu'on entend là, c'est que Djoury sait flatter les puissants. Et son passé de petit caïd, bah, il semble bien loin.
Bah, il faut dire qu'on a tout fait au sommet du pouvoir pour enjoliver son CV. Une note confidentielle versée au dossier libyen indique même, je cite, que plusieurs affaires criminelles le concernant auraient été effacées des fichiers de police. Bernard Squarcini, encore lui, a même rédigé en 2005 une lettre pour attester de la virginité judiciaire d'Alexandre Djoury.
Mais ça choque personne, ça.
Bah, il y a bien un policier de la DST qui tente d'alerter sur les activités de Djoury dans les années 2000, mais il est aussitôt placardisé. Ce policier a une formule qui résume bien les choses. Djoury, dit-il, c'est Tony Montana devenu Rasputin.
Ouais, la comparaison est assez pertinente d'ailleurs, parce que comme Rasputin, il peut aussi se montrer impitoyable.
Et notamment dans les affaires. Écoutez ce qu'a raconté aux enquêteurs Marwan Laoud, l'ancien responsable du groupe aéronautique EADS. En 2008, Djoury vient le voir et il exige d'EADS 12 millions d'euros de commission pour le rôle qu'il dit avoir joué en marge d'un contrat en Libye.
Il a commencé à s'agiter, à dire que ça n'allait pas se passer comme ça. Il a commencé à me balancer des noms, censé m'impressionner. Il m'a parlé de Jacques et Nicolas, en faisant clairement référence à messieurs Chirac et Sarkozy. Alexandre Djoury s'est alors montré particulièrement menaçant. Ensuite, il a tenté de m'amadouer en me parlant de devenir patron de Thalès. Puis, il était dans une menace assez froide, évoquant des violences physiques dont il aurait été l'auteur. Il a fini par me dire que je lui devais de l'argent et que je devais le payer.
Oui, donc Djoury peut se montrer menaçant. Et quand il veut quelque chose, d'ailleurs, Benoît, il lui faut tout de suite.
Et même pour des demandes qui peuvent paraître complètement folles, comme lors de cet appel à son ami le député Alain Marceau.
Alain, t'es occupé ou quoi ?
Ah, vas-y, je t'écoute.
T'es dans quoi, là ?
Avec le ministre des Affaires étrangères, avec Fabius.
Ah, d'accord. Est-ce que tu peux me filer tout de suite 10 000 euros en billets de 100 ?
Non. Je peux pas te filer 10 000 euros en billets de 100, là, tout de suite, non.
Ok.
Il faut que je passe à ma banque. Tu crois pas que j'ai 10 000 euros sur moi, non ?
Eh ben vas-y, là, maintenant, si tu peux.
Mais je peux pas, enfin, non. Je suis avec le ministre des Affaires étrangères. Je peux pas le quitter pour aller à ma banque pour aller chercher de l'argent.
Appelle-les !
C'est ça, ouais, d'accord. Ouais, mais bien sûr, n'importe quoi.
De quoi ?
Ça peut pas attendre demain, non ?
Demain matin, alors ? Mais maintenant, ce serait mieux.
Maintenant, la question se pose pas. C'est non, là, je sais pas faire. Parce que tu crois que j'ai 10 000 euros comme ça, moi, il faut quand même que je les commande à ma banque.
Ok, bon, allez, je t'embrasse. À l'attaque, alors, hein ? Et à tout à l'heure, bye, tu m'appelles.
Attendez, 10 000 euros en petite coupure réclamée à un député, c'est juste surréaliste là, ce qu'on vient d'entendre. Hein.
C'est du Djoury tout craché, hein, il n'a aucun complexe. Dans une autre écoute, il se vante même d'avoir, je cite, « mis une torchée à l'ambassadeur du Qatar ». Et il ne se gêne pas pour demander des services même les plus inattendus, comme il le fait avec son ami Dominique de Villepin le 30 septembre 2014.
Dis-moi, j'ai oublié de te demander, tu serais d'accord pour dire du bien de Christine Lagarde ?
Moi ? Pourquoi ?
Bah parce qu'il y a Hervé Gattegno, il fait un super papier sur elle, un beau papier, hein, c'est dans Vanity Fair, et il me dit, demande à Dominique si je peux l'appeler pour juste qu'il me dise ce qu'il pense d'elle. Et il me précise, attention, il y a zéro coup de Trafalgar.
Alors écoute, c'est moi qui l'ai fait rentrer en politique, c'est moi qui l'ai nommée, elle s'est toujours comportée comme une garce avec moi, j'ai rien à dire.
T'as rien à dire ?
Non, je préfère ne pas m'exprimer, je n'ai pas envie de donner mon avis sur tous les cons de la planète.
Ouais, les cons de la planète. Bon, au-delà du langage fleuri de Dominique de Villepin, ce qu'on entend tout de même, hein, Benoît, c'est qu'Alexandre Djoury a aussi des amis dans le milieu de la presse.
Oui, il est à tuer à toi avec certains journalistes, des grands patrons de presse et des communicants chez Lagardère ou chez Dassault, par exemple. Et ces contacts, il les utilise d'ailleurs pour essayer d'étouffer l'affaire libyenne. Il suggère par exemple Figaro, propriété de Dassault, d'écrire un édito pour défendre Claude Guéant.
Oui, c'est donc véritablement, on le comprend, un des piliers occulte du pouvoir sous Sarkozy. Alors maintenant qu'on a vu qui il était, eh bien on va voir quel rôle il a joué, mais ça, c'est dans quelques instants.
I'm just a fool.
Just Your Fool, un vieux blues comme on les aime, et c'est extrait du dernier album des Rolling Stones.
France Inter. Secret d'info, Jacques Monin.
Alors, on a bien compris qu'Alexandre Djouri semble être une pièce maîtresse de cette affaire libyenne. On a vu quelle est sa trajectoire hors norme, ses méthodes parfois brutales, ses réseaux, son influence auprès des puissants. Et on va voir maintenant que mélanger affaires et politique, eh bien, ça ne lui pose, Benoît Colomba, aucun problème.
Oui, alors il faut savoir qu'Alexandre Djouri est domicilié à Genève, mais qu'il passe sa vie dans les avions, il fait des affaires dans le monde entier, fréquente les palaces et les grands restaurants. Et quand il le faut, Djouri n'hésite pas à demander à ses amis haut placés de lui donner un petit coup de pouce. Exemple, le 20 janvier 2015, Djouri est à Moscou avec l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin. Et voilà ce qu'il demande à Nicolas Sarkozy.
Oui, allô ? Alexandre ?
Ah, Nicolas, bah ça me fait plaisir de t'entendre.
Qu'est-ce que vous faites à Moscou ?
Ah bah faut qu'on essaye de gagner du pognon quand même, on travaille à l'attaque, qu'est-ce que tu crois ?
Bon allez, je t'embrasse.
Hé hey Nicolas, demain, tu peux nous passer un coup de fil, toi, pour éventuellement qu'on voie Poutine un peu plus rapidement au lieu qu'on poirote ?
Parlons-en demain, hein ?
Ok.
Je t'embrasse.
Je t'embrasse, bye, à demain.
Ouais, donc Djouri se sert de ses amis politiques pour faire du business, mais il leur renvoie aussi l'ascenseur.
Effectivement, dès qu'il peut, Djouri invite aussi ses amis à profiter de ses relations. C'est ce qu'on comprend dans cet appel passé en 2013 à Claude Guéant, qui n'est plus ministre, mais qui est devenu avocat d'affaires.
Eh ben quand je rentre là, on va voir les Popov ensemble, hein, les Russes.
Ah bien, volontiers, oui, oui.
Dès qu'ils arrivent, ils vont me tenir au courant, c'est dans le week-end.
D'accord, ok, d'accord.
Allez, à l'attaque !
À l'attaque, ouais, c'est une vraie marque de fabrique hein, apparemment chez lui. Il fait donc des affaires avec ses amis hommes politiques, mais il en fait aussi avec certains hauts fonctionnaires.
Oui, comme Bernard Squarcini, l'ancien patron du renseignement. Lui s'est reconverti dans l'intelligence économique après la défaite de Nicolas Sarkozy. Il a donc de bons tuyaux. En avril 2015, par exemple, Bernard Squarcini essaie d'en faire bénéficier son ami Alexandre Djouri.
Deux champs de pétrole au Kazakhstan à vendre. Ça t'intéresse ?
Ouais, bah ok. Bah ouais. Bien sûr, bien évidemment.
L'ami de Londres, il va me balancer de la doc et je vais te la rebalancer.
Ouais, bah impec, top.
C'est pour ça que moi, quand il m'a dit « Est-ce que vous connaissez quelqu'un ?», j'ai dit « Il y en a qu'un qui peut gérer cette affaire et c'est lui. » Il me dit « Ok, il prend sa com, nous on prend la nôtre et puis voilà, ok ?»
Ok, bah ouais, à l'attaque.
Je te tiens au courant, papy.
Ouais, allez, bye, je t'embrasse.
Allez, va à la pêche, hein. Ciao.
Donc on fait du business, hein. Là il s'agit d'acheter des champs de pétrole, mais Alexandre Djouri sert en fait d'intermédiaire dans toutes sortes de transactions, y compris dans le domaine de l'art.
On l'entend clairement dans cette conversation entre Djouri et son ami Dominique de Villepin en septembre 2014. Djouri vient d'envoyer à Villepin la photo d'un tableau qui pourrait lui plaire.
Qu'est-ce que tu penses de ce soulage ?
Ah, il est très très bien, il est très beau.
T'es d'accord ?
Ouais.
1954.
Magnifique, un an après ma naissance. Magnifique, il est très beau. Qu'est-ce qu'ils en veulent ?
Pour l'instant, c'est 2,4
millions. Ah ouais, il faut que tu le fasses baisser un peu.
C'est négociable.
Ouais, ouais, fais-le baisser et prends-le.
Et puis ça, tu peux foutre ça au coffre et tu le planques.
Ah ben oui, il est grand comment ?
Ben, je t'ai envoyé 1,47 m sur 1,14
m. Ah oui, oui, superbe. Non, 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 il est très beau.
Oh, je savais que ça allait te plaire, celui-là.
Il y a un peu de rouge, magnifique, t'as bon goût, là. Tu l'as vu où ?
Je l'ai vu chez un pote à moi qui le vend parce qu'il a besoin de pognon.
Ah, en Suisse ?
Bah oui, il est en Suisse, à 100%.
Il est très beau, très très beau, mon vieux. Putain, t'as de la chance, tu peux foutre ça dans ton salon sans problème.
Ouais, on l'entend, pour Djouri, rien n'est trop beau pour son ami Villepin, et c'est réciproque.
Hein. Oui, quand Villepin met sa bibliothèque personnelle aux enchères, il informe son ami Djouri, et c'est Djouri qui achète la pièce maîtresse de sa collection, une version rare de Tintin au pays des soviets qu'il paye la bagatelle de 43 000 euros.
Et c'est d'ailleurs une vente qui intrigue les enquêteurs.
Bah oui, parce que, étrangement, Djouri ne veut pas que son nom apparaisse sur la facture. Et il le dit clairement à Dominique de Villepin dans cet échange.
Je vais pas payer avec mon nom, hein. Je paye par l'étranger, moi.
Mais non, tu payes par où tu veux, mais il faut payer avec ton nom. Il faut qu'on sache qui a payé, tu mets la référence de la facture du Tintin, tout ça.
Évidemment, mais je mets pas de nom.
Bon, et tu me dis après qu'on puisse te donner le machin, là.
Mais ça, je m'en fous, c'est pas urgent, mais putain, qu'il le garde, je paie et il le garde.
Oui, alors là, ce qu'on comprend bien, Benoît, c'est que Jury veut rester dans l'ombre. Il ne veut pas que son nom apparaisse.
Effectivement, il semble tout faire pour éviter qu'on puisse tracer son argent.
Sauf que les juges ont apparemment, tout de même, découvert un lien entre Alexandre Jury et, on y revient, la cagnotte de Kadhafi.
Oui, et ce lien, c'est une villa achetée par Alexandre Jury à Mougins, dans le sud de la France. Cette villa, Jury va la revendre 5 fois son prix. Ah, et oui. À qui donc? Eh bien, au fonds libyen de Béchir Salé, l'argentier de Kadhafi.
Ouais, donc Béchir Salé aurait ainsi pu payer Jury avec de l'argent libyen. Mais Jury, cela dit, n'est pas le seul à intéresser les juges. Il soupçonne aussi maintenant Dominique de Villepin d'avoir touché de l'argent du même réseau.
Exactement, Dominique de Villepin, devenu lui aussi avocat d'affaires. Pendant plusieurs années, il a été payé 800 000 euros par an pour rédiger des notes pour un riche saoudien.
Bon, ce qui en soi n'est pas illégal. Hein.
Non, sauf que lorsque les enquêteurs regardent de plus près ces fameux 800 000 euros, ils se demandent s'il ne s'agit pas en fait de prestations fictives et si Dominique de Villepin n'a pas tout simplement recyclé de vieux discours. Le 6 septembre dernier, la police l'a d'ailleurs interrogé sur ce point.
Nous avons constaté qu'une note intitulée « Considérations sur les adaptations possibles aux défis urbains asiatiques à la lumière des évolutions et des prises de conscience récentes » de janvier 2009 correspondait mot pour mot au texte d'une de vos interventions lors d'une conférence qui se tenait l'année précédente. Comment expliquez-vous ce réemploi ?
Je n'ai pas le souvenir précis du contexte de la transmission de cette note basée sur une conférence passée. J'ai parfaitement pu réutiliser des réflexions menées dans des conférences que j'ai données.
Et toujours devant les enquêteurs, Dominique de Villepin affirme n'avoir aucune relation d'affaires avec Alexandre Jury. Il prétend même ne pas connaître son domaine d'activité.
Ouais, le même Jury qui lui achète pourtant des tableaux et son Tintin. Bon, ce qu'on a bien compris en tout cas, c'est que les politiques n'ont aucune envie d'évoquer leur lien avec Alexandre Jury.
Et pour cause, car selon le journaliste Pierre Péan, ce ne sont pas les politiques qui tiennent Jury, mais bien Jury qui les tient.
Fin des années 80... Il est encore un instrument, il rend des services. Après, il devient le seigneur de la zone grise. Et dans la zone grise, il tient les hommes politiques. Il connaît tous leurs secrets, notamment les secrets financiers. Mais pour d'autres, ça peut être des secrets sur les filles, des choses compromettantes. On le protège à cause de ça.
Et est-ce que c'est lié, est-ce que c'est le résultat de cette protection? En tout cas, les témoins parlent peu. Et du coup, il est difficile de savoir si oui ou non, et on y revient, la campagne de 2007 a bien bénéficié de financements libyens.
Alors il y a tout de même un faisceau d'éléments accréditant cette thèse, en tout cas de l'argent libyen remis à des politiques, même si les sommes varient beaucoup d'un témoignage à l'autre. Par ailleurs, un autre intermédiaire, Ziad Takieddine, a récemment reconnu devant les juges avoir remis de l'argent de Kadhafi à Claude Guéant et Nicolas Sarkozy, une version démentie par les deux hommes.
Bon, quoi qu'il en soit, argent libyen ou pas, Benoît, ce qui apparaît, ce que vous avez tout de même constaté, c'est qu'à minima, des espèces auraient bien circulé pendant la présidentielle de 2007.
En tout cas, un témoignage que nous avons recueilli, celui de Jérôme Lavrieux, est très troublant. Il était le directeur adjoint de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2012 et il nous a confié qu'à sa grande surprise, à la fin de cette campagne, des cadres du parti qui étaient déjà là 5 ans plus tôt sont venus lui réclamer de l'argent liquide.
La personne me dit en 2007, nous avons tous reçu une prime en liquide. J'ai dit mais en 2007, moi j'y étais pas. J'ai pas de liquide, j'ai même pas de coffre-fort dans mon bureau. Sur le moment, j'ai quasiment pris ça comme une blague. Et là, j'ai vu, j'ai compris qu'en fait, on nous suspectait de ne pas avoir redistribué l'argent.
D'avoir gardé l'argent pour vous.
Oui. Et je me suis dit, mais dans quel monde vit-on? C'est une pratique qui, pour ce que j'en ai compris, semblait être habituelle.
Et ce témoignage, Jérôme Lavrieux l'a confirmé devant les juges de l'affaire libyenne. Du côté de l'ancien président, on dément des accusations qualifiées de provocation.
Provocation, oui, peut-être. Sauf que d'autres indices laissent penser que du liquide a bien pu circuler à l'UMP en 2007.
Oui, comme ce SMS de Rachida Dati, envoyé le 9 septembre 2013 à Brice Hortefeux. L'ancienne garde des Sceaux pense alors que ce fidèle de Nicolas Sarkozy cherche à lui nuire. Elle est furieuse et elle le menace en lui disant ceci.
Salut le facho, Je vais dénoncer l'argent liquide que tu as perçu pour organiser des rendez-vous auprès de Sarko lorsqu'il était président. Des relations tout aussi liquides que tu as eues avec Takieddine. Et je peux continuer avec les avantages que tu as eus et as encore à l'UMP à l'insu de ceux qui payent. Alors maintenant, je te préviens très fermement, tu me fous la paix. Je ne te lâcherai pas, espèce de voyou.
Sacrée ambiance. Maintenant, on connaît aussi le caractère impulsif de Rachida Dati. Elle a pu exagérer, aller trop loin sous le coup de l'emportement, non ?
Bien sûr, mais il y a un autre élément matériel qui intrigue tout de même les enquêteurs. C'est un très grand coffre-fort loué par Claude Guéant à la BNP pendant 4 mois, juste le temps de la campagne présidentielle.
De 2007, un coffre ? Mais pourquoi faire ?
Eh bien, voilà comment Claude Guéant le justifie devant la police.
Il s'agissait de stocker en sécurité des archives personnelles appartenant à M. Sarkozy et moi-même.
Si ce coffre-fort ne vous a servi que pour entreposer vos archives personnelles, pour quelles raisons vous y êtes-vous rendu à 7 reprises entre mars et juillet 2007 ?
Pour consulter des documents. Je pense au discours que M. Sarkozy avait pu faire. J'avais demandé un petit coffre et, faute de disponibilité, j'en ai obtenu un grand.
Pas de chance, le coffre est trop grand. Bon, maintenant, et pour conclure d'ailleurs, Benoît, combien de mises en examen ont été prononcées dans cette affaire ?
Alors, 3 pour l'instant. Claude Guéant, un homme d'affaires saoudien et l'intermédiaire Ziad Takieddine. Les juges ont bien convoqué Alexandre Djouri, mais il ne s'est jamais présenté devant eux. J'ajoute qu'Alexandre Djouri a toujours nié avoir joué le moindre rôle dans cette affaire libyenne.
Bien, merci Benoît Colomba pour cette enquête. Ce formidable travail de fourmi que vous avez réalisé, précisons-le, avec Élodie Guéguin. Votre enquête à 4 mains, donc, on peut la retrouver. Il a podcasté sur franceinter.fr. Vous pouvez aussi consulter la page Facebook de Secret d'Info et nous faire part de vos commentaires. C'est la fin de Secret d'Info. Merci à Léa Dupouy-Hannequin qui m'a aidé à préparer cette émission. Merci à Hélène Biziot, notre réalisatrice. À la technique, il y avait Henri Bérec et Gaël Braouzek. La programmation musicale, elle était signée Jean-Baptiste Audibert. Dans quelques instants, Denis Chessou prendra le relais pour CO2, mon amour. Je vous souhaite un excellent week-end à tous.